Jerusalem, and thou shalt be built into the temple. Thy foundation shall be laid.
Amen.
You know, if I said the garden, I'm like, Yes.
Amen. Donc nous parlons de la captivité du peuple de Dieu.
Et nous pouvons courir à Boyoyinti.
Quelle est notre condition? Dieu nous montre notre condition dans la parole. Donc tout ce qui est écrit dans la parole, dans la Bible, est un portrait de nous, de notre condition. Quand nous lisons ces histoires, nous devons toujours appliquer chaque histoire à notre condition. Ce n'est pas seulement des histoires historiques, mais très pertinentes à notre condition. Donc, dimanche matin, nous avons vu la condition du peuple de Dieu. Ils avaient tout. Ils avaient le temple de Dieu. Ils avaient la loi de Moïse donnée il y a longtemps. Ils avaient l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple. Ils avaient les promesses de Dieu. Ils avaient le nom de Dieu. Ils avaient la ville de Jérusalem. Ils avaient tout. Il ne leur manquait rien. Dans le temple, il y avait l'arche.
Le gbedoxɔ mea, nubablaɖaka le.
Du témoignage.
Nubablaɖaka.
Il y avait l'autel. Il y avait le lieu le plus saint. Le lieu le plus saint. Avec l'arche, avec la manne. N'est-ce pas? Avec les commandements. Avec la verge d'Aaron qui a fleuri. Ils avaient le chandelier. Vous avez le pain sacré, n'est-ce pas? Ils avaient l'autel de l'encens. Dieu leur avait donné beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il manquait? Il manquait Dieu lui-même. Donc ils avaient la façade. Mais ils avaient perdu la réalité. Et donc, leur vie était différente de ce qu'ils avaient. La manière dont ils vivaient était différente de ce qu'ils possédaient. Et le problème, c'est qu'ils ne le savaient pas. Et donc, ils pensaient qu'ils avaient Dieu. Parce qu'ils avaient les formes, la façade. Donc, si vous êtes né dans une maison ou dans une famille chrétienne, vous êtes béni. Mais parce que vous avez l'environnement, vous avez une ambiance qui est convenable à connaître le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire que vous avez le Seigneur. Être né dans une famille chrétienne ne vous rend pas forcément chrétien. Donc, ceux qui disent que quand on leur demande « Quand êtes-vous devenu chrétien ?» ils disent « Ah, je suis né chrétien. » Non, c'est... Vous pouvez voir tout de suite que il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas né chrétien. C'est-à-dire, on n'est pas né physiquement chrétien. N'est-ce pas? Non. On peut naître dans une famille chrétienne avec des parents chrétiens. Vous avez la forme, vous avez la façade qui est très utile, qui peut vous amener au Seigneur. Mais vous devez avoir le Seigneur lui-même. Vous devez connaître le Seigneur pour vous-même. Sans ça, vous n'avez pas le Seigneur. Et vous pouvez vivre toute votre vie en croyant que vous êtes chrétien. Mais êtes-vous vraiment chrétien? Non. Non. Donc il y a des gens qui vivent leur vie, n'est-ce pas? Et on leur demande, vous êtes chrétien? Ah oui, je suis catholique. Oui, je suis chrétien. Je suis allé à l'école, à une école chrétienne. J'ai été baptisé quand j'étais bébé, un bébé. J'ai été confirmé.
Confirmation, un seul dodo.
Voilà. Non, non. Tout ça, tout ça, ça nous trompe.
Ça nous trompe.
pour, ça c'est Satan, n'est-ce pas, qui nous trompe pour nous faire penser que nous sommes chrétiens, que nous croyons en Dieu. Mais en fait, nous ne croyons pas en Dieu, nous ne connaissons pas Dieu. Donc c'est bien, quand nous prêchons l'évangile, de demander aux gens, avez-vous reçu le Seigneur? Avez-vous, y a-t-il un jour où tu as décidé, où tu as ouvert ton cœur pour accepter le Seigneur? Quelle est votre origine? Quelle est ton origine? N'est-ce pas? Nous avons tous une origine, une généalogie spirituelle. Notre généalogie spirituelle commence avec notre nouvelle naissance en Christ.
Le Christ,
ça ne commence pas avec notre naissance physique, avec nos parents. Donc ne vous trompez pas. Ah, vous êtes chrétien quand vous êtes né de nouveau.
Amen.
Donc ce soir, si vous n'êtes pas certain que vous êtes chrétien ou que vous êtes né de nouveau, c'est bien de vérifier ce soir que vous appartenez à Jésus-Christ. Amen. Qu'il est votre sauveur. Qu'il n'est pas le sauveur seulement de vos parents, mais qu'il est votre sauveur, votre propre sauveur. Il est le Seigneur et mon Dieu. Et donc, à maintes reprises dans l'Ancien Testament, Dieu fait référence à lui-même en tant que l'Éternel, ton Dieu. Amen. Il y a des gens dans la Bible qui reconnaissent l'Éternel comme Dieu. Mais il y en a d'autres qui reconnaissent l'Éternel comme leur Dieu. Il y a une différence. On peut reconnaître Dieu. Et Dieu est là. Je reconnais Dieu. Il est grand, il est magnifique. C'est le créateur. Il est surtout, il veille, il règne surtout. Mais reconnaître que Dieu est mon Dieu, à ce moment-là, vous permettez à Dieu de venir dans votre vie pour faire quelque chose, pour devenir votre Dieu. Ça veut dire que maintenant, vous avez un Dieu qui est votre Dieu. Vous n'êtes plus votre propre patron. Ça veut dire que vous avez fait un échange de patron. Autrefois, vous étiez votre propre patron. Vous pouviez faire ce que vous vouliez faire. Mais une fois que vous recevez le Seigneur Jésus, vous perdez ce droit. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui entre. Il est votre Dieu. Ça veut dire qu'il va réaménager votre vie. Votre vie va être bouleversée. Donc, ça c'est la vie chrétienne. C'est la vie la plus glorieuse. Mais c'est aussi la vie la plus difficile. C'est la plus... Parce qu'il y a beaucoup... Il y a beaucoup d'expériences. N'est-ce pas? Donc, nous pouvons... Donc, le peuple d'Israël...
Israël,
avaient perdu leur Dieu.
Au bout, au moment où,
je veux dire leur Dieu.
Mais ben au moment où,
ils avaient Dieu.
Mao non aussi.
Mais Dieu n'était pas leur Dieu.
Bon, Mao menyo au moment où,
ils avaient d'autres dieux.
Mao bubu non aussi.
Dans leur vie, ils adoraient d'autres dieux.
Le fait que mais on a Mao bubu souvent.
Tout en reconnaissant Dieu. Ah oui, je suis chrétien. À l'école ou au service. C'est facile d'oublier qu'on est chrétien. De vivre une vie. Au service.
Le domaine.
De parler d'une certaine manière jusqu'à ce que un collègue vous dise ah mais toi tu es chrétien. Ah oui je suis chrétien. J'ai oublié. Mais lui il n'a pas oublié parce que les non-chrétiens, ils n'oublient pas que vous êtes chrétien. Ils se souviennent toujours. Et donc ils disent, et toi, tu es chrétien et tu aurais pu, et tu as parlé comme ça. Alors Dieu se sert des païens pour nous exposer, pour nous montrer notre captivité. Au service, je suis, je prétends avoir Dieu, mais en fait, je suis en captivité. Parce que je n'ai pas Dieu. Dieu n'est pas mon Dieu à ce moment-là. Ah, c'est un Dieu qui est très 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 loin. Il est ici, peut-être, dans ma tête. Mais il n'est pas exprimé. Il n'est pas réel. Donc, nous avons besoin d'être sauvés. Nous avons besoin du salut.
Amen.
Amen. Donc, Dieu va nous sauver. Mais comment est-ce qu'il va nous sauver? Il va nous sauver en nous amenant en captivité. Et la captivité avec le peuple d'Israël, elle n'a pas commencé seulement quand le roi de Babylone est venu pour emporter, pour amener captifs les enfants, les juifs. Non, elle a commencé bien avant. La condition, le détournement, la perte de Dieu. C'était le début de la captivité. Donc, ce que Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, a fait, ce n'était que le résultat, la conséquence d'une condition déjà éloignée de Dieu. Tout ce que ce roi a fait, c'est qu'il a, il a obéi à Dieu. Dieu l'a utilisé pour conclure.
Ou,
pour conclure, pour sceller, pour confirmer
Bene a toro pegi
la fin de la liberté des enfants d'Israël.
Ben Israël, je vous nyenya et a dok pegi.
Donc la
et a dok pe.
Amen. Donc la captivité, à vrai dire, la captivité est une bénédiction.
Le yakope me aboyo enye yaira
parce que elle est vraie.
Elle a bien nia tope.
Elle nous montre notre vraie condition. Sans la captivité, nous ne saurions pas ce que nous sommes.
Vous
voyez, donc quand votre collègue vous dit « Ah, vous êtes chrétien !» Ça, c'est le salut de Dieu. C'est la bénédiction pour nous exposer, pour nous réveiller. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous faisons? Quelle sorte de vie est-ce que nous menons? Mais, et nous sommes pleins de honte. Seigneur, moi je suis ton serviteur ou je suis un frère. Et je peux vivre d'une telle manière. Et c'est un païen qui ne te connaît pas qui me reproche. Quelle honte! Ça, c'est la miséricorde du Seigneur. Ça, c'est la captivité. Donc, le fardeau ce soir, c'est que nous reconnaissons. Que nous reconnaissions notre captivité. Ça, c'est la première chose. Ah, un alcoolique, quelqu'un qui boit, n'est-ce pas, qui est accro, n'est-ce pas, accro. La première chose qu'il doit faire, c'est de reconnaître. Qu'il est comme ça. Mais s'il continue à nier, impossible de l'aider. Parce que il pense qu'il n'a pas de problème. Mais en fait, il y a un problème grave. Mais il doit reconnaître qu'il a un problème. Donc, en tant que, n'est-ce pas, captif, nous devons reconnaître, Seigneur, j'ai un problème. Ah, je suis chuté. Je suis déchu. Je suis loin de toi. Seigneur, mais avec j'ai tout, n'est-ce pas? J'ai les formes, j'ai les pratiques. J'ai toutes les choses que tu m'as données pour vivre la vie chrétienne. Mais Seigneur, je suis sans toi. Donc je suis captif. Ça, c'est la première chose. Amen. Donc, dans la captivité, Dieu nous prépare. Et donc, ça, c'est le fardeau ce soir, la préparation du peuple de Dieu. Dieu veut nous préparer. Il veut préparer notre cœur pour que nous tournions à lui. Pour que nous revenions à lui. Sans hypocrisie. Sans prétention. Sans nos œuvres mortes, n'est-ce pas? Sans toutes les choses que nous pouvons faire pour le Seigneur, Même nos prières. Nos sacrifices. Ce que nous avons fait dans le passé. Tout ça, si nous n'avons pas le Seigneur aujourd'hui, ça ne compte pas. Oui, je parle franchement. Ça ne compte pas. Comment j'ai suivi le Seigneur il y a un an? Il y a 2 ans. Maintenant, comment est-ce que je suis le Seigneur? Quelle est ma vie aujourd'hui? Donc, Dieu veut nous préparer. Et c'est très intéressant. C'est en
Babylone
que Dieu a commencé à préparer son peuple. Sans les formes, sans rien. La ville, le temple a été détruit. La ville de Jérusalem a été finalement détruite.
Jérusalem
en 586 avant Jésus-Christ. Le roi de Babylone a amené captifs les jeunes, n'est-ce pas, les jeunes, ceux qui étaient avec du talent.
Babylone a appelé Israël,
Les vaillants, les hommes vaillants, oui, ça c'est tout, tous, n'est-ce pas, presque tous. Tous, tout le monde, presque tout le monde a été amené en captivité. Et en Babylone, qu'est-ce qu'ils avaient? Pas de temple. La façade, non, pas de façade. Mais ils avaient une chose. Ils avaient la parole de l'Éternel.
Amen.
Donc, avec ça, n'est-ce pas, il y avait une chose qui restait. La parole de l'Éternel. Et donc, Dieu a préparé son peuple. Et surtout, à travers un homme qui s'appelle Daniel. Daniel était captif.
Daniel,
oui, il a été amené captif pendant la première invasion de Babylone. À peu près en 605 avant Jésus-Christ. Nebuchadnezzar a amené Daniel et ses compagnons. Tous les jeunes, tous ceux qui étaient prometteurs, utiles à la société, ont été amenés captifs. Donc Daniel était aussi dans la même condition.
Daniel,
mais en captivité, Daniel s'est exercé.
Daniel a
dans un environnement qui était, on peut dire, qui n'avait pas la forme de Dieu. La forme religieuse. Dans un environnement païen. N'est-ce pas? Daniel s'est exercé.
Daniel a adoré quoi?
À être différent.
Ben, il y a tout fou.
D'abord, à se séparer. Donc tout de suite dans son service, quand il est entré en service pour servir le roi en formation, il a dit il a résolu de ne pas manger, n'est-ce pas, la viande et le vin du roi.
Vous
voyez, et ça c'est à Jérusalem.
Le Jérusalem,
il n'a pas, apparemment, n'est-ce pas, on n'a pas fait ça.
Au moins, ouais, à Jérusalem.
À Jérusalem, on n'a pas fait cette séparation.
Mais Jérusalem, au moins, c'est clair.
Parce qu'on pensait qu'on allait bien.
Et là-bas, quoi, c'est bien. Nous y en avons eu aussi.
C'est quand vous n'avez pas l'environnement religieux que vous vous rendez compte que vous avez besoin du Seigneur. Quand vous êtes dans un environnement on peut dire religieux, ah, tout va bien, je suis chrétien, je viens à la réunion, j'entends la Bible, j'entends la parole de Dieu, je chante quelques chansons, j'écoute des prières ou même je donne quelques prières et je rentre à la maison et je vis ma vie et tout va bien. Qu'est-ce qu'il y a de mal avec ça? Je suis assez bien, je suis mieux, je fais mieux que beaucoup d'autres chrétiens. Vous voyez, donc il n'y a aucun souci de vivre une vie séparée pour le Seigneur. Ben, je suis saint, je suis déjà saint. N'est-ce pas, nous sommes tous saints. Mais nous ne savons même pas ce que ça veut dire, saint. Si je suis saint, est-ce que je vais toucher les choses qui ne sont pas saintes? Bah oui, vous secouez la tête. Oui, c'est vrai. Mais quand vous vivez. C'est très facile de penser qu'on est exempt. On est exempt d'une vie sainte. On est exempt. On n'est pas lié à vivre une vie séparée. Parce que nous sommes saints. Nous sommes déjà séparés. Non, oui, mais en position. Mais si ça reste en position, je m'excuse, ça n'a aucune valeur. La preuve, c'est est-ce que la séparation, n'est-ce pas, que j'ai reçue le jour où j'ai cru au Seigneur, est-ce que cette séparation continue pratiquement? Donc Daniel a décidé de commencer sa vie, on peut dire, il a commencé une nouvelle vie. Il était jeune, peut-être 18 ans, 19 ans, mais très jeune. Il avait sans doute écouté beaucoup, entendu beaucoup de choses. Il connaissait sans doute les Écritures, n'est-ce pas? Il était éduqué. Ses parents étaient croyants. Mais lui, il n'est pas Il n'est pas resté, il n'est pas, il ne s'est pas fié à son passé. Mais il a lui-même résolu de vivre d'une manière différente. Je ne serai pas comme les autres. Les autres, à l'école, ils fument. Bon, ici on ne fume pas. On fume? Je ne bois jamais. On fume, ok.
On fume.
Ok, parce que jusqu'à maintenant, je n'ai vu personne avec une cigarette dans la rue. Mais apparemment, ok. Bon, oui, aux États-Unis, au Canada, vous ne pouvez pas marcher 10 pas sans voir quelqu'un dehors en train de fumer. Oui, c'est pas faux. Vous marchez dans la rue et il faut respirer toutes ces choses-là. Parce que c'est illégal de fumer. Oui, à l'intérieur, dedans. Donc, tout le monde sort. N'est-ce pas? Ok, on fume ici, ok. Bon, mais je décide, n'est-ce pas, d'être différent. Mes amis fument, mes amis prennent des drogues. Boivent de l'alcool. Ben, moi, je vais être différent. Parce que je suis différent. Parce que j'appartiens au Seigneur. Et donc, dès le début, Daniel a fait une résolution. Il a dessiné, n'est-ce pas? Il a fait une ligne de séparation. De ne pas se souiller d'aimer du roi. Et l'eunuque, n'est-ce pas, il a dit, ah, mais attention, si tu fais ça, moi, je risque de perdre ma tête, parce que au cas où le roi voit que vos visages ne sont pas... Ne sont pas aussi sains, aussi quoi, n'ont pas une bonne apparence.
Daniel dit quoi?
Je risque de perdre mon travail et aussi de perdre ma tête. Parce que le roi m'a confié, n'est-ce pas? Il m'a... vous tous, n'est-ce pas? Il vous m'a confié. Donc Daniel, très très sagement, n'est-ce pas? Beaucoup de sagesse.
Daniel, merci à dans le soubo.
Il a dit, d'accord.
Elle leur a dit,
éprouve tes serviteurs. Donne-nous à manger des légumes et de l'eau pendant 10 jours. Et après 10 jours, tu vas juger. Et tu vas faire une décision.
Vous
voyez, Daniel, il s'est séparé.
Daniel a éclairé Pera.
Mais il ne s'est pas seulement séparé, mais il a changé son régime.
Mais éclairé Pera pour être venu nous.
Des légumes et de l'eau.
À ma plaie.
Ça veut dire, il a changé son régime. Donc, pas seulement il s'est abstenu de quelque chose, mais il a remplacé par quelque chose de positif. Donc, quand nous nous séparons, ce n'est pas que nous renonçons à telle ou telle chose seulement, mais que nous le remplaçons par quelque chose de Dieu. Autrement, je veux dire autrement, ça ne va pas durer. Parce que par nos propres forces, notre chair est trop forte. Vous ne pouvez jamais, si vous essayez de combattre votre chair, vous allez toujours perdre. Parce que la chair est beaucoup plus forte que votre corps. Que votre âme. Oui. N'est-ce pas? Comme Paul le dit, n'est-ce pas? Dans Romains chapitre 7. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. N'est-ce pas? Parce que il y a quelque chose dans ma chair qui empêche, qui est plus forte que ma mentalité, que ma mon âme qui veut faire du bien. Alors, nous avons besoin de quelque chose de plus, de plus fort, n'est-ce pas? Et ça, c'est le remplacement. Donc, ça commence avec nous, dans notre vie, cette séparation. Ça veut dire que, frères et sœurs, tout ce que nous avons appris, les connaissances, les choses que nous avons entendues, même les prières que nous avons données au Seigneur, il arrive un moment où tout ça doit devenir réel. Toutes ces choses-là ne peuvent pas rester dans notre tête, dans notre passé, mais elles doivent opérer, elles doivent œuvrer pour changer notre vie, pour nous rendre différents. N'est-ce pas? Petit à petit, nous nous rendons compte que nous ne sommes pas ce que nous étions il y a 5 ans. Peut-être qu'il y a 5 ans, il y a 2 ans, il y a 2 ans, vous étiez un frère. Vous aimiez, vous adoriez venir à la réunion. Après le travail, après le service, vous étiez fatigué. N'est-ce pas? Mais vous ne pouviez pas attendre. N'est-ce pas? Vous veniez à la réunion directement. Et maintenant, vous avez du mal à venir. Ou vous venez, mais avec hésitation. Encore une réunion. Mais pourquoi est-ce que les frères doivent... Est-ce qu'ils programment les réunions comme ça? Il faut avoir une réunion le mardi soir, jeudi soir, vendredi soir,
il
y a trop de réunions. Mais à un certain moment, vous n'aviez même pas cette pensée. Ça veut dire que quelque chose est arrivé pour nous faire perdre ce feu, ce désir pour le Seigneur. Mais comment? Parce qu'il y a quelque chose dans notre vie qui s'est faufilé. N'est-ce pas? Qui s'est faufilé. Qui est entré subtilement. Pour créer un mur. Alors, notre cœur n'est plus le même qu'il était. Avant, nous étions tellement simples. Aimant le Seigneur. Seigneur, je t'aime, je suis pur pour le Seigneur. N'est-ce pas? Je suis dans la vie de l'Église parce que j'aime le Seigneur. J'aime les frères et les sœurs. Je veux être avec eux, je veux louer le Seigneur. Mais maintenant, il y a quelque chose dans ma vie qui a pris une autre place, qui a occupé une place, et donc qui rivalise, n'est-ce pas, qui est, c'est une, il y a une compétition. Et donc je n'ai plus ce zèle, je n'ai plus ce désir ardent. Donc, j'ai besoin de me séparer. Et j'ai besoin de remplacer, n'est-ce pas, ce que le Seigneur touche, ce que je renonce, ce à quoi je renonce. J'ai besoin de le remplacer par quelque chose de positif. Changer mon régime. Donc, au lieu de passer une heure ou une demi-heure à faire quelque chose, n'est-ce pas, quelque chose qui est entré en moi dans ma vie, de regarder quelque chose, d'aller quelque part pour m'amuser, pour boire quelque chose, cette chose-là, je dois me séparer. Je rentre une demi-heure avant. N'est-ce pas? Être avec ma femme, être avec ma famille. Peut-être lire un peu la Bible. Remplacer ce que je perds, ce que je... par le Seigneur lui-même. Ça c'est Daniel, n'est-ce
pas?
La séparation. Et pas seulement la séparation, mais il a prié. Il n'a pas commencé à prier quand dans une situation difficile. Dans Daniel chapitre 6, quand le roi les satrapes, ils ont trompé le roi pour le faire donner un décret, n'est-ce pas, que tous ceux qui priaient à quelqu'un autre que lui serait jeté parmi les lions, n'est-ce pas? Daniel, il est entré, quand il a entendu le décret, il est entré dans sa chambre pour prier. Mais ce qui est frappant, c'est que comme c'était son habitude, Donc Daniel s'est préparé.
Daniel a été la recueillie
pour faire face à la tentation.
Ben ne a pas encore été bon.
Si nous ne sommes pas préparés, ça va être difficile. Vous pensez que vous allez prier au moment de la tentation? Si vous priez, ce serait probablement un miracle. La plupart de nous, n'est-ce pas, 99%.
Les miens à l'enfant, bla, à ce que vous achetez à l'enfant,
ne vont pas prier.
Au moins deux ans.
Ça, c'est le. C'est la chose la plus lointaine. C'est le plus loin de nos pensées. Non, nous céderons à la tentation. Mais si nous avons l'habitude de contacter le Seigneur, de nous exercer, comme Daniel, seul, et aussi avec ses compagnons, nous serons prêts, nous serons préparés à faire face à la tentation. Autrement, nous serons victimes trop facilement. Et j'ai peur que nous tombions victimes trop facilement. Nous n'avons pas la force, n'est-ce pas, de résister. Non, ce n'est pas par nos forces que nous pouvons résister. C'est par la prière. Prière habituelle. De chercher le Seigneur, de venir au Seigneur. Ah, comme Joseph, n'est-ce pas, Joseph, vous vous souvenez de Joseph?
Joseph.
N'est-ce pas, il a fait face à la tentation. Mais comment est-ce qu'il a pu résister? Parce qu'il avait un rapport avec le Seigneur. Autrement, impossible. N'est-ce pas? Donc, dans tous les défis, toutes les situations difficiles. Nous devons être préparés. Autrement, nous n'allons pas nous tenir fermes. Donc, Daniel, il était serviteur de trois rois. D'abord, du roi
Nebuchadnezzar.
Il a servi. Si vous lisez Daniel, vous allez voir comment il était avec le roi. Éventuellement, Nebuchadnezzar, moi je dirais, il a connu Dieu. Il a reconnu Dieu. Oui. Il est arrivé à un point où il a reconnu le Dieu de Daniel. Et même Dieu l'a reconnu. Et donc, on peut dire même que ce roi a été, on peut dire, sauvé. À cause du service de Daniel. Donc, voilà la préparation de Daniel. N'est-ce pas? Dans un environnement, dans une ambiance païenne, il a prêché l'évangile. Il a exprimé sa vie. Sa vie a été un témoignage à
Nebuchadnezzar.
Alors, ce roi-là, il s'est rendu compte. Daniel, ton Dieu est réel.
Daniel,
Et même il a donné un décret. N'est-ce pas? Tous ceux qui parleraient mal du roi de Daniel serait exterminé.
baracho Daniel fait mountia wadora,
n'est-ce pas? Vraiment, c'est un roi que Dieu a utilisé. Pour châtier son peuple. Mais un des rois qui s'est vraiment tourné à Dieu. N'est-ce pas? Et puis aussi Belshazzar, le petit-fils, je pense, de Nebuchadnezzar.
Belshazzar.
Mm-hmm. Daniel, il a amené le jugement à ce roi, le jugement de Dieu.
Daniel,
donc Daniel, dans son rapport avec les rois, était capable de témoigner de Dieu. Comme Paul le dit à certains, nous sommes quoi? Nous sommes une saveur, n'est-ce pas? Jusqu'à la vie, une saveur de vie. Jusqu'à la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que en nous, il y a Christ, il y a la saveur de Christ. Qui mène d'autres à la vie éternelle. Mais pour d'autres, nous sommes une saveur de mort. Jusqu'à la mort. Je ne sais pas si le mot saveur est le mot juste. Il y a un autre mot. A fragrance of Christ. Right, of Christ unto life. Oui, une âme. Odeur. Oui, c'est ça. Pas saveur. Une odeur. Oui. Oui. Oui, c'est ça. 2 Corinthiens, n'est-ce pas? Odeur de mort et odeur de vie. C'est ça. Oui. Donc, pour Nebuchadnezzar, Daniel était une odeur de vie.
Mais Nebuchadnezzar, Daniel,
parce que Nebuchadnezzar, son cœur était ouvert. Il s'est humilié. Mais Belshazzar, il ne s'est pas humilié. Donc, il a été jugé. N'est-ce pas? Et le royaume a été perdu. Et donc, les Perses sont venus pour vaincre les Babyloniens et Darius, n'est-ce pas, Darius, le Mède, il est devenu roi. Et donc Daniel a servi Darius.
Comment Daniel a subi Darius?
Et nous avons lu le verset, n'est-ce pas? Daniel chapitre 9, verset 2.
Daniel,
je vous lis le verset. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Amen. Donc Daniel n'était pas paresseux. Il était très occupé.
Daniel a mené Koufiato.
il cherchait les Écritures. Ah, il lisait Jérémie. Jérémie avait écrit des prophéties. Et il les a envoyés aux captifs en Babylone. C'est pas facile. Aujourd'hui, nous avons la Bible. Nous pouvons, c'est facile de l'acheter, c'est facile de l'obtenir. Mais à l'époque, il n'avait pas encore la Bible. Oui, ils avaient la loi de Moïse. Ça c'est vrai. Le Pentateuque, n'est-ce pas? Mais les écrits de Jérémie, d'Ésaïe, parce que c'était des prophètes assez contemporains, n'est-ce pas? Jérémie était contemporain de Daniel. Ésaïe peut-être 100 ans avant. Donc leurs écrits ont été envoyés. Il fallait un effort pour lire. Et vous vous souvenez que Jérémie, même quand Jérémie a prophétisé et il a écrit ses prophéties, le roi à l'époque, Joachim, il a coupé le parchemin. Et il a mis dans le brasier, dans le feu. C'est comme si nous lisions la parole page par page et quelqu'un avec des ciseaux coupait la parole et le mettait dans le brasier. Alors, donc, Jérémie a dû écrire encore. N'est-ce pas? Il a dicté à son compagnon. Baruch, qui était le scribe. Et c'est Baruch qui a écrit encore. Dieu lui a dit, t'en fais pas, je vais ajouter d'autres choses. La deuxième fois, tu vas écrire, tu vas envoyer. Et donc Daniel l'a reçu en captivité. Ça veut dire qu'il cherchait, il avait soif, il avait faim de la parole. Est-ce que nous avons faim? Nous avons soif. Où est la faim que nous avions? À une certaine époque, la Bible était ouverte, n'est-ce pas? Le matin, quand nous nous levions, nous ouvrions la Bible. Au travail, au service, pendant le déjeuner ou une pause, nous avions la Bible avec nous. Mais maintenant, la Bible n'est plus là. N'est-ce pas? On n'a pas le temps, n'est-ce pas? On est trop pressé. On a beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Donc, quand j'entends l'excuse, je n'ai pas le temps. Oui, je n'ai pas le temps pour ça. Mais j'ai du temps pour d'autres choses. N'est-ce pas? Et la Bible était, n'est-ce pas, à côté sur notre bureau, au travail. Mais maintenant, il n'est plus là. Peut-être que nous avons honte, nous avons peur, nous avons honte. qu'on nous dise ça, tu es chrétien. Donc, alors, nous préférons ne pas être chrétien.
Donc,
n'est-ce pas, au travail. Comme ça, au moins, n'est-ce pas, nous serions préservés. Non, nous avons, nous nous sommes éloignés. Mais ça va quand même, ça va. Nous ne sommes pas vraiment tracassés, nous ne sommes vraiment pas bouleversés.
Et il y a même un tacamion.
Concerné, oui, c'est ça. Nous avons beaucoup d'excuses, beaucoup de justifications. Maintenant j'ai 5 ans de plus. Je suis plus âgé. Je suis plus équilibré. Je suis plus sage. Maintenant j'ai une maison, j'ai une famille, j'ai des responsabilités, j'ai des engagements, je suis un homme d'affaires, je suis occupé. Je suis pas comme j'étais quand j'avais 20 ans, j'étais jeune, j'étais zélé, j'étais ardent, j'étais fou pour le Seigneur.
Voyez,
nous avons des excuses. Et personne ne peut nous dire que nous avons tort. Parce que oui, nous avons des responsabilités. Oui, il y a ça. Mais le fait, c'est que nous manquons quelque chose. N'est-ce pas? Ah, et est-ce que nous pouvons... Ah, si je pouvais redécouvrir mon désir pour la parole, ma faim pour la parole. Même moi, c'est facile. Souvent, avant de me coucher. Quand j'étais jeune, je lisais la Bible. La dernière chose que je faisais avant de me coucher.
Parce
que
la Bible a filmé la nuit.
Maintenant, est-ce que je fais la même chose? Ah, c'est très facile de lire quelque chose d'autre. Mais j'ai lu la Bible pendant la journée. Maintenant, j'ai besoin de me détendre. N'est-ce pas? J'ai besoin d'être un peu relax. Voyez, nous avons tant d'excuses. Daniel, il cherchait. Parce que en captivité, il n'avait rien d'autre. Il cherchait le Seigneur. Quand nous avons d'autres choses, nous ne cherchons pas le Seigneur. Mais quand ces choses-là, n'est-ce pas, s'éloignent, le Seigneur est là. Nous pouvons le chercher. Donc il cherchait, n'est-ce pas? Il lisait les Écritures. Il a découvert que 70 ans sont presque passés. Dieu va nous délivrer. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Daniel? Il s'est humilié. Il s'est humilié devant l'Éternel. Il n'a pas dit, oh, c'est le temps de se lever pour retourner à Jérusalem. Non, d'abord, il s'est humilié. Il s'est repenti. Dieu, nous avons péché. Il a confessé d'abord ses propres péchés. Ses péchés. Alors, dans le verset, n'est-ce pas, verset, chapitre 9, verset 20. le verset 20. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Donc, son propre péché d'abord. Donc, je dois me repentir. Seigneur, j'ai eu tort. Je me repens de ma façon de vivre. Ah Seigneur, même je ne sais pas quoi dire. Comment est-ce que j'ai pu arriver à ce niveau? Seigneur, même de rester devant le Seigneur. Même sans rien dire. Parce qu'on n'a même pas les mots pour nous exprimer. Qu'est-ce que je fais avec ma vie jusqu'à maintenant? Seigneur, c'est cette période-là que j'ai passée, que j'ai gaspillée. Seigneur, est-ce que je peux la retrouver? Seigneur, qu'est-ce que. Même en pleurant, n'est-ce pas? On est muet devant le Seigneur. On n'a pas d'excuses. On est faible. Même on n'a même pas de résolution à faire. Parce que je suis un échec total. Seigneur, je suis rien. Devant toi, j'ai besoin de ta miséricorde. Toi, tu es un Dieu de miséricorde. Donc, Daniel, il s'est prosterné, il a supplié.
Daniel a abordé qui un frère de coucou.
Ça, c'était la préparation. N'est-ce pas? C'est son, sa vie, sa manière de vivre qui a préparé le cœur de Cyrus, roi de Perse,
je dirais,
pour donner le décret. N'est-ce pas? Dans Esdras, chapitre 1, que nous allons éventuellement aborder. Oui. Mais ne pensez pas que Cyrus, il a donné un décret comme ça. Dieu œuvre, mais il œuvre pratiquement. Il œuvre à travers des vases. Toujours. Et donc, je ne pense pas que Dieu ait chuchoté dans l'oreille de Cyrus. Envoie le décret, n'est-ce pas, pour... Non, c'était... Bon, la Bible ne le précise pas, mais... Mais selon mon sentiment, et selon le principe de Dieu, c'est Daniel, le perfectionnement de Daniel, le service de Daniel, sa vie, sa manière de vivre, et sa parole au roi, qui a probablement fait que Cyrus a éventuellement fait ce décret. Ésaïe, le dernier verset que nous avons lu, parle de chapitre 44, parle de
Cyrus.
C'est vraiment étonnant. Chapitre 44, verset 28. Je dis de Cyrus, il est mon berger. Ah, un roi païen peut être le berger de l'Éternel?
Eh bien,
il accomplira toute ma volonté.
Il
dira de Jérusalem qu'elle soit
rebâtie.
Et du temple qu'il soit fondé. Merveilleux. Qu'un roi comme Cyrus puisse prononcer quelque chose comme ça, ça c'est Dieu. Mais à travers les vases. Je suis certain que Daniel a signalé. Il a porté l'attention de Cyrus à ce verset. Cyrus, il y a une prophétie dans les Écritures des Juifs.
Le Yudatobe Nyagloriomia
prophétisé. Il y a 100 ans, n'est-ce pas,
100 ans.
Où toi tu es mentionné,
vous
êtes mentionné parce que c'est le roi, n'est-ce pas, vous êtes mentionné, votre nom est là, vous êtes berger de l'Éternel, et c'est vous qui allez faire la proclamation, n'est-ce pas. Donc apparemment dans l'histoire, Cyrus était vraiment disposé au peuple aux Juifs.
Vraiment,
contraire aux autres rois. Cyrus, roi perse. Si vous lisez, nous allons lire roi Esdras, n'est-ce pas? Cyrus.
Cyrus
et plus tard Darius.
Darius.
Autre Darius.
Darius
était disposé, très favorable au peuple juif. Mais ça ne vient pas par hasard. Dieu prépare. Dieu nous prépare. Il prépare des vases. Il prépare des cœurs. N'est-ce pas? Donc, il veut changer notre vie. Il veut toucher notre vie. Pour que Dieu puisse œuvrer. Pour que Dieu puisse, n'est-ce pas, exécuter son dessein. Il a besoin de nous. Surtout de notre manière de vivre. Dieu ne fera pas les choses dans l'air. Non, c'est toujours à travers l'homme. Mais un homme, des hommes qui sont prêts et des femmes qui sont prêts à se séparer, à le chercher, à prier, à chercher les Écritures,
à
chercher la volonté de Dieu, à remplacer les choses inutiles dans leur vie par les choses utiles, les choses de valeur, pour que Dieu puisse exécuter, réaliser son dessein.
Amen.
Amen.